avec ces chants qui nous rappellent les vérités, les Écritures. J'espère que vous allez bien. Bienvenue ce matin, si vous nous visitez, on est content que vous soyez là, de pouvoir se réjouir avec Dieu. On arrive d'une période où vous allez peut-être bientôt, peut-être ce matin c'était un peu trop froid pour ça, là, mais vous allez bientôt peut-être aller à la cabane à sucre, hein? Et puis recueillir ce que, si vous vivez au Québec, si vous êtes né au Québec ou vous êtes arrivé au Québec, vous avez découvert comment est-ce que les produits d'érable sont fantastiques, sont bons. Et vous avez peut-être ça dans vos garde-manger. Je vais cacher la marque. Du sirop de poteau. C'est bon ça, je vais te le donner maintenant, ça me dérange pas. C'est du sirop de maïs là, dans ce cas-là, ou vous pourriez peut-être avoir du sirop de poteau. Mais du sirop de poteau, là, ça n'a rien à voir avec le sirop d'érable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça n'a rien à voir, le sirop de poteau, avec le sirop d'érable. C'est sûr que si vous achetez du sirop d'érable, vous allez avoir peut-être à mettre votre main un petit peu plus profond dans votre poche. Hein, dépendamment à quelle période, des fois ça peut se vendre, je sais pas, j'en achète pas souvent, là, mais un 6-7 piastres pour une canne de combien? Proche de 10 piastres. C'est quelque chose, hein? Comparativement à du sirop de poteau au maître épicier, je sais pas comment ça se vend, là. 3,99. Bref, il y a une différence entre les deux, hein. Vous êtes d'accord? J'aurais pas besoin de vous vendre l'idée longtemps. Il y a rien à voir avec du beurre d'érable puis du map au spread. Hein? Le map au spread, on s'en passerait. Ça n'a rien à voir avec le beurre d'érable. Il y a des choses comme ça qui sont des imitations, qui sont pas du vrai, hein? Puis des fois, on s'en contente, mais ça nous laisse sur notre faim, un peu comme le sirop de poteau ou le map au spread. Mais il y a des choses comme ça, authentiques, où ils sont de grande valeur, mais on a une appréciation beaucoup plus grande aussi. Le Dieu en lequel on croit, le Dieu qui nous est présenté selon les Écritures, le Dieu qui existe, qui a créé l'univers, est un Dieu qui n'est pas du toc. Est un Dieu qui est authentique, qui est vrai et de grande valeur. Le danger qu'il y a, c'est qu'on s'imagine ou qu'on rabaisse un peu ce que Dieu est dans sa grandeur pour se faire, vous connaissez peut-être l'expression, un Jésus de plâtre. Hein, un petit Jésus de plâtre. Et c'est dommage que de se faire une image d'un Dieu puis de le rabaisser comme ça. On chantait tantôt combien Dieu est grand. Constamment, on doit se rappeler de la grandeur de Dieu et de ne pas le rabaisser à ce que nous, on peut croire de ce que Dieu peut être. Dieu est vrai. Dieu est authentique. Et dans cette authenticité-là, Dieu veut une relation avec toi authentique, une relation vraie. Là où on est rendu dans 1 Pierre, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre 1, à partir du verset 17. C'est ce qu'on va pouvoir constater. C'est ce que le Jésus de la Bible, le Dieu qui veut entrer en relation avec toi, n'est pas du toc, n'est pas une imitation, n'est pas un petit Jésus de plâtre. C'est le Dieu de l'univers, le Dieu vrai, le Dieu authentique, et qui veut cette relation-là vraie et authentique avec toi. J'aimerais qu'on prie que Dieu nous dirige dans sa parole ce matin, dans ce qu'on va lire, de ce que Dieu veut nous dire, et qu'on soit attentif à sa parole, à son esprit qui vient nous parler. Prions. Seigneur, on vient devant toi pour te louer et pour t'adorer parce que tu es un grand Dieu, un Dieu vivant, un Dieu vrai. Et Dieu, quand on te chante ces cantiques, comme on peut te louer de toutes sortes de façons, tu es attentif à ça, tu es intéressé, tu es concerné. Et Dieu, ce matin, on veut te donner toute notre être, parce qu'on veut ouvrir nos cœurs, nos pensées, pour te rencontrer, toi. Tu es un Dieu authentique, et Dieu, tu veux une relation avec nous authentique. Viens nous enseigner. Viens mettre le doigt dans nos vies, sur notre cœur, là où on a besoin, Dieu, de te connaître encore plus, pour que tu nous transformes. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. On va lire ensemble les versets 17 à 21. Et si vous invoquez, en fait, juste avant que je commence, là, je voulais dire merci à Serge qui, la semaine passée, avait pris le relais, justement, dans Pierre, en ce qui concerne les versets précédents qui étaient là. Merci beaucoup, Serge, et puis David, qui était là aussi le dimanche soir. Et Serge avait continué, justement, là où on était, dans cette citation que Pierre a fait de verset 16 ou verset 15, « Mais puisse que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Maintenant, on continue là où on était rendu, verset 17. « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dieu est un Dieu vrai. Dieu est un Dieu authentique et il désire une relation avec toi, une relation authentique. La première chose que j'aimerais qu'on attarde notre attention ce matin, regardez le verset 17, je vais faire la citation de Second 21, c'est comme à un père que vous faites appel. Dieu veut une relation authentique, invoque-le. Parle-lui. C'est comme à un père qu'on fait appel. Quand on considère Dieu, les versets précédents disaient « Soyez saints car je suis saint ». Et il continue en disant « Si et si vous êtes des enfants de Dieu, c'est comme à un père que vous l'invoquez. Comme à un papa qu'on pourrait l'invoquer. » Il y a une histoire espagnole, je ne sais pas si c'est une légende espagnole, vous allez comprendre l'idée qu'il y a derrière. C'est un père et un fils qui s'étaient chicanés. Et le fils, fâché de la situation, de la circonstance, a décidé de quitter la maison. Il était en âge pour quitter, puis il a décidé de partir, comme ça, pendant que le conflit n'était pas réglé. Et le père, profondément attristé, a décidé de faire une petite annonce dans le journal, à Madrid, dans le journal principal, en disant « Paco, reviens à la maison. Tout est pardonné, ton père qui t'aime. » Il dit « Je te donne rendez-vous samedi à midi. » Devant la porte principale de ce journal-là. Fait que le samedi arrive en question, près de midi, et le père se rend proche de la porte du journal, et il y avait 800 Paco qui voulaient retrouver leur père, puis recevoir le pardon de leur père, et retrouver cette relation-là avec leur père. Ce désir de retrouver un Dieu, de retrouver un papa qui va nous pardonner, qui veut une relation vraie, une relation authentique, c'est l'image de Dieu. De Dieu qui veut qu'on l'invoque. De Dieu qui veut qu'on s'approche de lui de façon authentique. Et Dieu nous dit, approche-toi de moi, parce que je veux te pardonner, parce que je veux avoir une relation authentique avec toi. Et on peut être comme ces Paco puis se rendre finalement là où ce que Dieu nous a donné rendez-vous. Dieu est un papa pour ses enfants, puis les Écritures le disent souvent. Je vais juste vous faire quelques citations. Dans Jérémie 3, 19, Dieu se disait, « Comme je voudrais te mettre au rang que des fils ont et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations, je me disais que tu m'appellerais mon père et que tu ne te détournerais pas de moi. » Ça, c'est le désir de Dieu. Il voulait nous mettre au rang des enfants. Il parle à son peuple, mais c'est encore le désir de Dieu de nous appeler ses enfants et que nous, on puisse l'appeler Père. Quand Jésus nous a enseigné à prier, comment est-ce qu'il nous a dit d'invoquer Dieu? Notre Père. Dieu veut qu'on l'invoque comme à un Père, qu'on peut s'approcher de lui. Jean 1, 12, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont donné le pouvoir, ceux qui croient en lui, lui ont donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Ça veut dire quoi être un enfant de Dieu? Ça veut dire qu'on a un accès à notre Père, un accès à notre Papa. Romains 8, je vais faire une autre citation, 14 et 15. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Dieu est notre Père. On peut s'approcher de lui de façon authentique parce qu'il désire cette relation-là authentique avec nous. Dans Hébreux 4, 16, vous connaissez peut-être le texte, je vais vous en faire la citation encore une fois. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Pour obtenir quoi? « Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Quels sont les moments où on peut invoquer Dieu? Est-ce qu'il y a des circonstances où on ne devrait peut-être pas invoquer Dieu? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit, je ne suis peut-être pas assez digne pour invoquer Dieu? Je suis peut-être trop dans la misère pour invoquer Dieu? J'ai peut-être fait trop de choses tout croche pour crier à lui? Le texte nous dit, approche-toi. Approche-toi avec assurance. Pourquoi? Si je m'approche avec assurance pour obtenir miséricorde, est-ce que ça se peut que c'est parce que je ne le méritais pas? La miséricorde, c'est quelque chose que Dieu ne me donne pas, que je mérite. Les conséquences de certains choix. Et Dieu me dit, approche-toi de moi avec assurance pour obtenir miséricorde, pour obtenir grâce, pour être secouru dans mes besoins. Est-ce que je dois attendre que tous mes besoins soient comblés, que tout soit réglé, puis que tout soit rangé dans ma vie pour dire maintenant, je peux m'approcher de Dieu avec assurance? C'est peut-être dans ces moments-là où on a besoin justement de s'approcher de Dieu. Ou peut-être ces moments-là où on se sent peut-être pas digne, ces moments-là où on trouve la vie difficile, ou peut-être ça ne nous tente pas. Puis Dieu dit, approche-toi de moi avec assurance pour être secouru dans tes besoins, pour obtenir miséricorde. Dieu est un Dieu authentique. Il veut une relation authentique avec nous aussi. Et ça veut dire que je peux m'approcher de lui quand j'ai besoin d'être secouru, quand j'ai besoin d'avoir miséricorde parce que je ne le mérite pas. Dieu veut qu'on l'invoque. Dieu veut faire partie de ta vie. Ça veut dire quoi que Dieu fasse partie de nos vies? À chaque instant, dans chaque moment, dans chaque circonstance facile comme difficile, Dieu va en faire partie. Dieu va être impliqué dans ta vie. Il veut écouter tes soucis, tes craintes. Il veut écouter tes faiblesses, tes frustrations, tes joies, tes cris de joie, tes colères, tes doutes. Dieu est accessible. Il est un Dieu authentique, il veut une relation authentique avec toi. C'est comme à un père qu'on peut s'approcher, qu'on peut invoquer Dieu. On a un bel exemple dans la façon que Jésus a vécu sur la terre. Est-ce que Jésus était accessible? Est-ce qu'il y avait uniquement une certaine catégorie de gens qui pouvaient s'approcher de Jésus? Tout le monde pouvait s'approcher de Jésus. Puis si les gens recherchaient sa présence, c'était parce qu'il était accueillant. Il y avait une relation authentique. C'est ce qu'il désirait, d'avoir cette relation-là avec les gens. Et si Jésus était ami des gens qui étaient peut-être tout croches, c'est parce qu'il était authentique. Est-ce que ça veut dire que Jésus avait compromis sa sainteté? Jamais de la vie. Mais les gens qui avaient besoin de miséricorde, d'être secourus, venaient à lui. Il les accueillait. Maintenant, Dieu qui est au ciel, ce Dieu auquel on peut invoquer, et ce même Dieu authentique, il dit « Approche-toi de moi ». Dieu est là. Est-ce que vous croyez ça? Dieu entend. Quand vous priez ou vous criez à Dieu, est-ce que vous croyez qu'il entend? Un Jésus de plâtre, ça n'entend rien. Un petit Jésus, ça n'entend rien. Un Dieu de toc, ça ne se soucie pas de nos vies. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous voit. Il nous entend. Il est intéressé, il est concerné parce qu'il est authentique, parce qu'il est vrai et il est de grande valeur. C'est comme à un père que vous faites appel, que Pierre disait. Dieu veut une relation authentique avec moi. On va continuer le verset 17 parce que Pierre il continue en disant « Et si vous invoquez comme père, ça veut dire qu'on peut l'invoquer et qu'on peut dire que Dieu, c'est mon père. » Mais maintenant, est-ce que moi, je suis authentique aussi dans ce que je vais dire de Dieu? Je vais dire que Dieu, c'est mon Père. Mais est-ce que c'est vrai? Regardez verset 17, il continue en disant, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Il n'y a aucun honneur réel à donner à un Dieu qu'on s'est créé, qu'on s'est inventé, un Jésus de plâtre. Les standards, les attentes d'un petit Jésus de plâtre, pour garder cette expression-là, sont pas très élevés. Mais le Dieu de la Bible, celui que l'on croit, notre Père, si on l'invoque, il nous dit, conduisez-vous avec crainte, à la crainte du Seigneur pendant notre vie qu'on l'on a sur la terre. C'est quoi cette crainte-là? Est-ce que vous êtes déjà allé, je sais pas si vous êtes déjà allé à la tour du CN, puis vous avez monté jusqu'en haut, mais en haut complètement, je ne sais pas quelle hauteur ça peut avoir, mais vous pouvez marcher sur le plancher, là, où vous êtes comme dans la boule en haut, là, puis il y a une vitre. Puis j'ai déjà essayé de marcher sur la vitre. Mais quand on embarque sur la vitre, là, on a l'impression d'être vraiment très haut. Et puis on marche à la pointe des pieds comme si on allait être moins lourd, puis on se rentre le ventre. Et puis là, tu sais, pour perdre une coupe d'olive. Et puis là, on a l'impression d'être dans le vide. Puis il y a de la crainte. Là, on marche sur la pointe des pieds, puis ça fait peur. Mais dans le fond, il n'y a aucune crainte à avoir. Vous pourriez peut-être aller dans le Grand Canyon, je suis jamais allé, mais on dit que, par exemple, il y en a quelques-uns qui sont tombés dedans, qui sont morts. Et qu'il y a une crainte aussi à s'approcher proche du Grand Canyon et de voir la hauteur dans laquelle c'est. Mais il peut y avoir peut-être un peu plus de danger qu'à la tour du CN, parce qu'il y en a qui sont tombés dans le Grand Canyon. C'est quel genre de crainte que Dieu s'attend de nous? Une crainte où on se dit, et j'ai peur, mais dans le fond, je crains rien. Ou une crainte où j'ai réellement affaire à un Dieu qui peut me demander des comptes. Ce que Pierre il vient de dire dans le verset 17, c'est que Dieu juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Et conduisez-vous dans ce cas-là avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. On lisait tantôt dans Romains 8 qu'on n'est pas des esclaves pour vivre dans la crainte. On n'est pas étranger à Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez placé votre foi en lui, vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas à craindre qu'un jour que Dieu va vous rejeter, puis vous condamner, puis virer son capot de bord. On n'a pas à avoir cette crainte-là. Mais il y a une crainte, par exemple, à avoir de la personne de Dieu. Adam, il disait, après avoir péché, il était allé se cacher, puis Dieu lui avait dit, « Pourquoi tu t'es caché? » J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Craignez Dieu. Moïse, avec le buisson ardent, tomba sur sa face, se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Les gens qui se rassemblaient autour du mont Sinaï ont dit à Moïse, « Dis à Dieu qu'il ne nous parle plus, parce qu'on a peur, puis on va mourir juste au son de sa voix. » Il y avait la crainte de Dieu. Job, il disait, « Je suis terrifié à la présence de Dieu. Je suis dans la crainte de sa présence. » Ésaïe, quand il a vu cette vision dans le temple, il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Est-ce que c'était des réelles craintes qu'ils avaient de Dieu? De voir la grandeur de Dieu, de voir la royauté de Dieu. Peut-être vous diriez, oui, mais c'est des citations de l'Ancien Testament. Jésus a dit, craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui a, par exemple, le pouvoir ultime sur votre vie puis de jeter dans la géhenne. C'est celui-là qu'on doit craindre. Celui qui a le pouvoir absolu au-delà de notre vie terrestre. Et puis finalement, Pierre le dit lui-même. Verset 17. Conduisez-vous avec crainte pendant le séjour que vous avez sur la terre. Dieu juge selon les œuvres. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 5. Est-ce que ça va en opposition? On vient juste de dire que Dieu veut qu'on l'invoque. Puis il veut une relation authentique avec moi, puis je peux m'approcher de lui comme avec un père en toutes circonstances, puis obtenir miséricorde, puis être secouru dans mes besoins. Puis là, on continue en disant, ce qu'on voit, ce que Dieu nous dit, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps que vous avez encore sur la terre. » C'est pas en contradiction, mais il faut compléter. On va compléter le texte tantôt qui fait tout un ensemble. Et dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 9, Paul il dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. » Paul, il s'efforçait d'être agréable au Seigneur. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, il y aura un tribunal de Christ où tu auras à rendre compte, que le texte nous dit, du bien ou du mal qui aura été fait dans ton corps pendant le temps que tu auras fait sur la terre, du temps qui te reste devant toi. De quelle façon est-ce qu'on traite Dieu? De quelle façon est-ce qu'on perçoit Dieu? De quelle façon est-ce qu'on utilise Dieu? Dieu ne s'utilise pas. Mais on peut l'utiliser, par exemple. Quelle perspective est-ce qu'on a de Dieu? On veut le craindre pendant notre vie sur la terre parce que finalement, Dieu est Dieu. Dieu mérite tout honneur. Le texte dit que Dieu juge selon les œuvres et il vient nous le dire ici. Évidemment, ce n'est pas une question de salut éternel, mais de comment est-ce que je me serai comporté sur la terre avec ce que Dieu m'a confié, avec ce que Dieu m'a donné, avec cette relation-là que je peux avoir avec lui. Comment j'utilise ce que Dieu me donne? Est-ce que je le néglige? Est-ce que je le méprise? J'aurai à rendre compte à Jésus de ça. Juger selon les œuvres. Et on aurait pu citer l'histoire, par exemple, des serviteurs avec les talents, si vous vous souvenez, ce que Jésus avait cité. Un maître avait donné 10 talents à un, 5 à l'autre, puis un au dernier. Puis celui qui avait eu un talent l'avait enterré. Puis le maître avait dit, « Méchant serviteur, tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé avec. » Et selon comment est-ce qu'ils avaient utilisé ce que le maître leur avait donné, ils ont reçu aussi soit une confirmation comme quoi vous avez bien fait, ou l'inverse, comme quoi vous avez mal fait. Dieu sonde, il évalue, il éprouve. C'est quoi le désir de Dieu? Dieu veut une relation authentique. Si Dieu veut une relation authentique, c'est qu'il veut que je le considère comme il est réellement. Ne pas considérer réellement comment est-ce que Dieu est, c'est de ne pas le craindre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Jacques 2, 8 et 9, vous pouvez revenir avec moi dans 1 Pierre. Pendant ce temps-là, je vais vous citer Jacques. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Dieu nous demande de ne pas nous faire du favoritisme. Dieu ne le fait pas non plus. Que je sois un ministre de l'Évangile, que je sois un pasteur, que je sois un disciple engagé, que je sois un enfant de Dieu nouveau-né, Dieu ne fait pas de distinction. Dieu ne fait pas de distinction si on est ses enfants. Les standards de Dieu demeurent pareils pour tout le monde. Qui que vous soyez, si vous êtes un enfant de Dieu, les standards de Dieu demeurent pareils pour tout le monde. Puis Dieu veut qu'on marche selon ses standards. Puis la semaine passée, vous avez vu dans Pierre, « Soyez saints, car je suis saint. » Est-ce que c'est élevé comme standard? J'ai pas entendu beaucoup de oui, mais je suis pas mal sûr que vous pensez que oui. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que c'était élevé comme standard? C'est assez élevé, hein? Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Est-ce que c'est élevé comme standard, ça? Ça se peut-tu que des fois, ça ne me tente pas de pardonner? Puis pourtant, Dieu, lui, m'a pardonné. Les standards de Dieu sont élevés. Priez sans cesse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hein? On pourrait en citer. Les standards de Dieu sont élevés. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas baisser les standards de Dieu. Dieu est un Dieu authentique. Dieu est un Dieu vrai. On doit le prendre et le comprendre et l'accueillir comme il est. Et si ma réaction à ça, c'est du découragement, mais je suis pas capable. C'est même trop difficile. Je pourrai jamais. Je recommence tout le temps la même affaire de toute façon. Je suis pas digne. On peut pas baisser les standards de Dieu, mais il faut pas baisser les bras non plus. Pas parce que les standards de Dieu sont élevés qu'on doit baisser les bras. Et on peut pas baisser les standards de Dieu non plus en disant, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit? Avez-vous déjà entendu cette phrase-là quelque part? Hein? Satan avait dit ça à Adam. Oui, mais ça, c'était dans l'ancien temps. Les standards de Dieu sont plus pareils. Il n'y a ni ombre, ni variation dans la personne de Dieu. Dieu a demeuré le même hier, aujourd'hui et demain. Oui, mais dans le fond, Dieu veut mon bien. C'est peut-être pas si pire que ça. Là, on baisse la barre un petit peu. Hein, pour être capable humainement que de faire ce que Dieu nous demande. Mais dans le fond, c'est peut-être pas si pire que ça. Dieu est un Dieu vrai, authentique. Invoque-le. Approche-toi de lui avec assurance. Dieu est un Dieu vrai et authentique et crains-le. Qu'est-ce que ça me donne que d'avoir un Dieu qui n'est pas à craindre? C'est plus Dieu? Si je crains plus Dieu, est-ce qu'il est devenu finalement un Jésus de plâtre pour moi? J'ai pas à craindre d'être comme un esclave, mais à craindre Dieu comme un père, dans lequel que pendant les jours qui me restent à marcher ici-bas sur la terre, je vais m'efforcer, comme Paul le disait, à lui être agréable. Parce que je sais que Dieu juge selon les œuvres, que Dieu va me demander des comptes sur ce qu'il m'aura prêté, et que finalement je veux plaire aussi à Dieu, comme ce que Pierre est en train de nous encourager au verset 17. Dieu ne fera pas de favoritisme de personne d'entre nous. Dieu va nous évaluer selon ce qu'il nous a donné, puis nous demande de se conduire avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Dieu est un Dieu vrai et authentique. Mais Dieu est un Dieu vrai et authentique. Et je terminais avec cette dernière vérité-là. Apprécisant la valeur. Apprécie ta valeur que Dieu t'a donnée. Dieu est authentique et vrai. Et ça fait en sorte que tu deviens de grande valeur. Valeur inestimable. Parce que Dieu est de grande valeur. Et cette valeur-là, il me l'a donnée aussi. Regardez à partir du verset 18. Vous savez. Est-ce que vous le savez? Vous savez. Vous savez à quel prix vous avez été racheté. Le problème, c'est pas de savoir, c'est de l'oublier. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais vous avez été racheté par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Apprécie la valeur de Dieu, apprécie ta valeur que Dieu t'a donnée aussi. C'est un orphelin qui habitait chez sa grand-mère. Et cet enfant-là couchait à l'étage supérieur et à un moment donné, un soir, la maison a pris en feu. Et le brasier était rendu si grand que la grand-mère a eu beaucoup de difficultés à rejoindre l'étage supérieur. Elle a fait tout en son pouvoir et n'est pas parvenue. Et elle est morte là. Et l'enfant, lui, qui est dans sa chambre, qui peut pas descendre parce que le feu monte, il crie à l'aide, puis il n'y a plus personne dans la maison pour venir l'aider. Il crie par la fenêtre, à l'aide, pour que quelqu'un vienne parce que sa vie... Elle s'arrête là, là. Il va mourir. Et un passant qui avait vu le feu, s'est empressé, il a vu la maison en feu. C'était impossible de rentrer par la maison pour de venir secourir cet enfant-là. Et il a décidé de grimper par la gouttière sur le côté, qui était encore toute chaude et qui pouvait pas vraiment s'agripper après. Mais il a réussi à monter puis sortir cet enfant-là du brasier. Quelque temps après, il y a eu une audience pour déterminer où on pouvait placer cet orphelin, chez qui il allait vivre. Puis plusieurs personnes dans le village étaient présentées pour dire, « Ben moi, je peux m'en occuper. Je peux m'en occuper. Oui, je vais pouvoir lui donner un lit. Ou je vais pouvoir lui donner un endroit. » Puis l'enfant, à un moment donné, a vu un homme arriver. Les mains brûlées, pensées. Puis quand il a vu cet homme-là, il s'est exclamé, en voyant cet homme-là, que c'est vers lui qu'il voulait aller. Parce que c'était l'homme qui l'avait sauvé du brasier et qui s'était brûlé les mains sous la gouttière pour venir le sortir. Notre vie était en feu. On était perdus. Notre maison était brûlée. Et quand on a crié à l'aide, Dieu est venu nous en sortir. Jésus est venu nous en sortir. Dieu est un Dieu